Bonsoir, ici François Elbron. D'habitude, j'ai l'occasion de répondre aux chroniques dans le journal d'information de Pierre Gandu sur Radio Shalom, mais ce soir, c'est moi l'intervieweur et j'ai le très très grand plaisir de recevoir Alexandra Léniel-Lavastine, philosophe, historienne, engagée, qui vient de publier aux éditions du Cerf une biographie saisissante d'un héros absolu de la France, André Zirneld, et ce livre s'appelle « Le chant d'un partisan ». Ça a été préfacé par un général parachutiste, le général Olivier Tramon, et j'ai souhaité interviewer Alexandra Lavastine, car l'aspirant Zirneld fut le premier officier français des forces françaises libres tué au combat pour la France, et aussi compagnon de la libération, ce qui était l'ordre le plus honorifique et le plus important de la France libre. Il n'y en a eu que 1038 qui ont été décorés de cet ordre. Et je voulais vous parler parce que, elle comme moi, en 2017, nous avons écrit sur ce héros, André Zirneld, et elle comme moi, à l'époque, nous avions écrit que André Zirneld, d'origine alsacienne, était juif. Mais elle comme moi, nous nous sommes trompés, et grâce à sa biographie, j'ai compris pourquoi. Mais dans cet entretien qui durera 2 fois 10 minutes, j'ai voulu savoir un peu plus, après la lecture de son superbe essai, biographie et un peu roman d'aventure, que je vous encourage à lire, Le chant d'un partisan. J'ai essayé de savoir pourquoi cette légende juive n'était peut-être pas totalement une légende. Et je voulais comprendre d'abord qu'est-ce que André Zirneld, ses combats, ses engagements, son courage, ses idées philosophiques, puisque Alexandra est philosophe, nous disent d'un monde passé, mais aussi d'un monde présent, le monde de l'engagement, du courage et d'être debout. Donc Alexandra, bonsoir, bienvenue sur Radio Shalom.
Bonsoir.
Ma première question, dites-nous un peu qui était André Zirneld, et peut-être avant, pourquoi vous, philosophe et historienne, vous êtes intéressée à ce héros absolu ?
Alors, en effet, je l'ai rencontré de façon un peu étrange. C'était à l'été 2016, secoué par la vague d'attentats islamistes sanglants que nous savons. Et mon fils était à l'époque jeune parachutiste dans un régiment d'élite de l'armée française. On se contacte, il me demande ce que je fais. Je lui réponds un essai sur ce qu'être un homme debout ou une société debout veut dire face à l'adversité. C'est une question qu'on serait bien inspiré de se poser en ce moment. Et il me coupe et il me demande « Mais est-ce que tu connais au moins la prière du Para ?» La prière du Para, inutile de vous dire que je n'en avais jamais entendu parler. Et il me dit « C'est très simple, tu lis et si tu vibres, je t'autorise à parler de la figure du combattant au sens strict comme au sens large. Et sinon, laisse tomber, change de sujet. »
Et moi, je connais la prière du Para parce que je l'ai chantée comme officier parachutiste, mais je ne savais pas, comme Alexandra, qu'il avait été écrit par André Zirneld. Alors, pourquoi cette prière est si importante et pourquoi Zirneld est si important ?
Voilà. Alors, Zirneld, donc, j'ai découvert ce poème qui est sublime. C'est sans doute un des plus beaux poèmes écrits au XXe siècle. Et c'est le poème... en fait, les paras pensent souvent que c'est la prière d'un guerrier à destination d'autres guerriers, c'est-à-dire qu'il l'a écrit pendant la guerre. Et en fait, pas du tout, et c'est ça qui est tellement intéressant. André Zirneld est en effet donc un jeune homme d'origine alsacienne qui va réitérer en juin 40 le choix de son grand-père avant lui, qui choisit la France en 1870, qui est né à Paris, qui est orphelin de père. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il coche quasiment toutes les cases du français libre archétypique. Il est orphelin de père, il est le cadet d'une fratrie de 4 enfants, il est issu d'une famille très pauvre. En fait, il est le neveu de Jules Zirneld. C'est ça que, François, nous avons oublié de vérifier quand on a écrit qu'il était juif. Jules Zirneld, qui était le fondateur du syndicalisme chrétien en France. Puis, ce garçon a cet oncle, justement, comme mentor, qui lui apprend 2 ou 3 choses essentielles. Sois toi-même, envers et contre tous s'il le faut. Et puis, l'humilité, la loyauté et le courage, les vertus cardinales et l'esprit critique. Et puis, ce garçon est un tellement bon disciple de son oncle qu'il réussit à se faire virer en terminale de son internat catholique par un abbé redoutable qui s'appelait l'abbé Durand. Il passe son
Saint-Jean-de-Passy.
Il passe son bac en candidat déjà libre et, belle revanche sur l'abbé Durand, qui était son prof de philo, il s'inscrit en philo à la Sorbonne, où il est l'élève de Brunswick, et où, surtout, donc il entre en Sorbonne en 32, il fête ses 20 ans en 33, l'année où Hitler accède au pouvoir, et... Il adhère dès sa fondation au groupe Esprit, un groupe qui rassemblait, disons, des chrétiens de gauche, qui plaidaient pour une révolution spirituelle et morale, qui était dirigée par Emmanuel Mounier, et dont un membre très important était Paul Landsberg, un juif berlinois converti, qui d'abord émigre à Madrid en 33, et puis nouvel exil après le coup d'État de Franco à Paris, et qui, d'une certaine manière, sauve la revue Esprit du danger de purisme. Il leur explique vraiment de quoi ils retournent avec le nazisme, le fascisme, etc. Si bien que la revue Esprit a été une de celles qui a eu les positions les plus justes dans les années 30.
Tout à fait.
À la fois très lucide sur ce qu'était la Russie, enfin l'Union soviétique de Staline, et en même temps très lucide sur le fascisme. À tel point.
Et d'ailleurs, Zirneld. Oui. Songe à s'engager auprès des républicains espagnols dans la Brigade internationale.
Voilà, le vrai tournant de l'engagement, c'est la guerre d'Espagne, et Zirneld veut s'engager. Il était un peu anarchiste sur les bords, il y a des parentés entre le personnalisme et l'anarchie, et une certaine anarchie, le moral d'abord, disons, de Morel. Et puis finalement, il se tâte, il n'y va pas, sans doute parce qu'il avait déjà compris que les commissaires soviétiques staliniens avaient déjà mis la main sur les brigades internationale, et donc il reste, mais il ne tient pas en place, il comprend que le vieux continent court vers l'abîme, il a besoin de prendre le large, et il soutient un DEA de philo sur Spinoza, sur la question du mal chez Spinoza, quel autre sujet à l'époque, en 1936.
Et c'est bizarre qu'un intellectuel, en 1937, travaille sur Spinoza, quand même.
Oui, c'était très rare. Mais cela dit, Brunswick, qui était son professeur, était un grand spécialiste de Spinoza. Et donc, il demande à être affecté en Tunisie. Et ça, c'est assez drôle, c'est aussi quelque chose que souvent les paras ignorent. C'est-à-dire que pourquoi va-t-il en Tunisie ? Parce qu'il était très curieux d'observer l'éveil d'un peuple, dit son ami de l'époque, Vitia Essel, qui faisait partie de son groupe d'étudiants. Donc, il passe une année en Tunisie, où il enseigne en terminale la philo au lycée Carnot, qui formait l'élite. Il a là, d'ailleurs, pour élève, un certain Edgar Pisani, qui deviendra le grand résistant que nous savons. Et Pisani raconte dans ses mémoires qu'un jour, à la fin des cours, son prof de philo l'a appelé pour lui dire « Toi, il faudra apprendre à te battre dans la vie ». Puis Zirneld, qui n'a absolument qu'une idée, c'est d'échapper à son service militaire, s'en va en Syrie, où il occupe son deuxième poste de militaire professeur et où va le surprendre la défaite.
Alors justement, on va parler de la légende juive de Zirneld, mais avant de parler de celle-là, il a une guerre absolument extraordinaire, glorieuse. Dites-nous rapidement ces différents régiments, ces différentes phases de combat jusqu'à sa mort héroïque et tragique le 27 juillet 1942.
Oui, donc il déserte depuis la Syrie française, maréchaliste. Il passe en Palestine, on y reviendra tout à l'heure. Et là, il passe vraiment à travers toutes les premières unités de la France libre. D'abord, le premier BIM, le premier bataillon d'infanterie de marine. Il quitte la Palestine mandataire pour arriver à Ismaïlia, en Égypte, près du canal de Suez, où le premier bataillon de la France libre est fondé. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, la France libre, c'est une toute petite phalange gaulliste. Et puis, il fait la guerre du désert, il chasse les Italiens d'Égypte. Ensuite, on le nomme pilote des sables. Il n'est pas très content d'être au volant, donc il cherche une autre affectation. Il veut toujours être en première ligne. Il a du mal. Et là, on le trouve beaucoup trop intelligent. Et donc, on l'affecte au Caire, où il va travailler avec George Gorse, notamment dans le cadre de la guerre des ondes et de la propagande, puisqu'il fallait rallier tous les Français du Moyen-Orient à De Gaulle, ce qui n'était pas une mince affaire. Et ensuite, il part se former à Brazzaville, à l'école des officiers FFL de Brazzaville. Il revient de Brazzaville. Il s'engage depuis Beyrouth, début 42, au SAS, au Special Air Service, c'est-à-dire ces célèbres, même mythiques, commandos franco-britanniques.
C'est les premiers parachutistes et d'une très belle série de la BBC, Rogue Heroes, les héros rebelles, nous racontent leur histoire.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est même l'ancêtre de nos forces spéciales, puisqu'ils avaient pour spécialité, ils étaient soumis à un entraînement incroyable, et ils avaient pour spécialité d'harceler les arrières de Rommel, mais derrière les lignes ennemies. Donc ils attaquaient les aérodromes qui se trouvaient tout au long de la côte, en s'infiltrant par les profondeurs du désert, ce que personne n'avait jamais fait, et en intervenant à pied, au début, à 3 ou 4.
Comment meurt Zirneld ?
Et alors, Zirneld, là, nous sommes en 42. Il part en opération en juin 42. Il s'agit de soutenir les copains à Bir Hakeim, c'est-à-dire de clouer au sol le maximum d'avions du Reich. Tout ça que les copains auront de moins sur le dos. Et c'est le premier raid motorisé du SAS. Ils interviennent avec des jeeps de combat armés de mitrailleuses Vickers pour dézinguer les avions garés sur les aérodromes de part et d'autre. Et c'est lors du repli d'un raid resté célèbre, le raid de Sidi Anej du 26 juillet 1942, qu'il joue de malchance. Sa jeep crève 2 fois. Il est blessé au ventre. Il va agoniser en plein désert pendant 7 heures, dans d'atroces souffrances. Il sera veillé par 6 de ses compagnons d'armes. Et c'est après sa mort au combat que ses camarades vont retrouver dans son barda un petit carnet rouge dans lequel il trouve à la page 16 et 17 un poème extraordinaire qui s'appelait simplement « Prière » et qui est passé à la postérité. On dira pourquoi, comme étant la prière du para. Et ce texte a une histoire tout à fait extraordinaire, puisqu'il sera d'abord lu à la BBC sur Radio Londres en 43, avec pour vocation initiale de fédérer toute la résistance, comme le chant des partisans de Kessel. Mais finalement, ce sont les régiments parachutistes qui s'en sont emparés, qui l'ont adopté. Et à partir de la guerre d'Indochine, il est devenu le chant fétiche des parachutistes français, alors même qu'on devrait tous le connaître par cœur et qui devrait être dans tous nos manuels scolaires depuis les années 50.
Tout à fait. Je vous remercie, Alexandra.